بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le samedi, le 8 du mois Dhul-Qa'da, ou Dhul-Qa'da, de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 25 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous lisons ensemble Sharh Usul al-Sunna l'Imam Ahmad, Imam Ahl al-Sunna, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Donc, on a parlé dans notre dernière rencontre de Shafa'a, l'intercession. Comme vous savez, Shafa'a, c'est un des sujets dans lesquels il y a eu le plus d'égarements au niveau de l'unicité de l'adoration. Al-Shafa'a, l'intercession. Où certains égarés ont cru qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme avec les rois de la terre. Tu ne peux pas accéder auprès de lui qu'avec un intermédiaire. Qu'avec un intermédiaire. Donc ils ont pris des intermédiaires et ils leur ont voué des adorations en prétendant qu'ils ont un statut élevé auprès d'Allah. Donc ils leur ont voué le droit d'Allah sous prétexte qu'ils ont un statut élevé auprès d'Allah, comme le prophète alayhi salatu wasalam. Où vous les entendez demander le secours au prophète alayhi salatu wasalam après sa mort, et demander son intercession auprès d'Allah, après sa mort, à lui. Alors que l'intercession du prophète, ça se demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme nous avons vu. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. L'intercession tout entière appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est à lui que ça se demande. La créature ne peut pas intercéder par elle-même. Elle intercède quand Allah lui permet d'intercéder et en faveur de qui il veut qu'elle intercède. Et l'intercession ne profite pas aux associateurs qui invoquent autre qu'Allah et lui demandent l'intercession. L'intercession ne bénéficie qu'aux muwahhidin, qu'aux monothéistes, ceux qui vouent toute leur adoration à Allah et qui se désavoue de toute adoration vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point parmi qui fait partie des grands signes de la fin des temps, qui est la sortie de l'Masih al-Dajjal, le faux Messie. Et le faux Messie, al-Masih al-Dajjal, c'est un homme qui est aujourd'hui vivant sur terre et qui sortira quand Allah subhanahu wa ta'ala le permettra. Quand Allah subhanahu wa ta'ala le permettra, il sortira. Et c'est un homme qui va rester sur terre 40 jours. Le premier jour sera comme une année. Et le deuxième jour sera comme un mois dans sa longueur. Alors que c'est un seul jour dans lequel il y a le soleil qui se lèvera une seule fois et qui se couchera une seule fois. C'est une journée, lakin dont la durée est équivalente à la durée d'une année aujourd'hui. Le deuxième est comme un mois, le troisième est comme une semaine, et le reste de ces jours est comme le jour d'aujourd'hui. C'est pour ça, sahaba radiallahu anha, vous, à leur place, quand vous entendez ce hadith, quelle est la question que vous allez vous poser? Et ça vous indique la façon de réfléchir d'un compagnon. Ça vous indique comment les compagnons réfléchissent. Les compagnons, ils n'ont pas d'intrigue ou de curiosité, de mauvaise curiosité dans le vide, dans des choses futiles. Quand on entend ça, la plupart des gens, ils commencent à se poser des questions de curiosité. Comment hadith, lakin sahabi, son souci, c'est les choses par lesquelles il est concerné directement. La salat, au messager d'Allah, un jour comme une année, est-ce qu'on va faire 5 salawat ou là, comment on va faire? C'est ça la question qu'ils se sont posées. Yani la chose par laquelle il est concerné. Amma, quand il sortira, là, il sortira. C'est pour ça, yani, parmi les réponses marrantes, et beaucoup de réponses de cet homme de science sont très très marrantes, malgré qu'il ne sourit jamais en général dans ses cours. C'est Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah. Quand quelqu'un lui a demandé, est-ce que Isa alayhi salam, il sera comme ça ou là comme ça, il lui a dit, quand il descendra, on te dira comment ça va être. Yani, dans le sens, pourquoi tu poseras des questions comme ça? Et comme certains salafs ont répondu à des personnes qui ont des questions qui font partie de la pure curiosité derrière laquelle il n'y a aucun intérêt. Yani, celui qui lui a dit, est-ce que Shaitan est marié? Est-ce qu'il a une épouse? Il lui a dit, ça c'est un mariage auquel je n'ai pas assisté. Et ainsi de suite. Salaf, ils avaient des réponses comme ça, à la fois marrantes, mais qui donnent une éducation. Car si tu ouvres la porte pour les gens, ils commencent à poser n'importe quelle question. Et ça va représenter une perte de temps pour eux et pour celui qui va essayer de donner réponse. Alors que Salaf, leurs questions, c'est des questions qui se sont déjà arrivées et aussi, c'est des questions derrière lesquelles il y a des actes. Quand il a la réponse, il va pouvoir faire quelque chose. Il y a un acte d'adoration. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les musulmans qui attendent la sortie de le Messie. Yani, Isa alayhi salam, c'est le point suivant que l'auteur a cité, il descendra du ciel. Car Isa n'a pas été crucifié et n'est pas mort, il est dans le deuxième ciel. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Bar rafa'ahu Allahu ilayh, comme Allah a dit dans le Coran. Allah l'a élevé vers lui, il est dans le deuxième ciel, il l'a élevé avec son corps et avec son âme, et il descendra vers la fin des temps. Et c'est lui qui va être capable de tuer ce Messie Dajjal, ce faux Messie. Had le Messie Dajjal, comme je vous ai dit mes frères, il n'y a pas que les musulmans qui l'attendent. Yani, après, est-ce que c'est le Messie ou le Messie Dajjal? Vous allez constater qu'il y a une confusion chez les gens du livre. Les gens du livre, juifs comme chrétiens, tous les deux attendent le Messie. Attendent la sortie de le Messie. Ou là, la descente de le Messie. Ou là, l'arrivée de le Messie. Selon leurs croyances. Les juifs l'appellent Al-Mashih. Al-Mashih. Et ils ont certaines de ces descriptions dans leurs livres qui ressemblent plutôt à ce que les musulmans appellent le faux Messie, Ad-Dajjal. Donc le Mashih qu'ils attendent et les descriptions qu'ils lui donnent, c'est à peu près les descriptions que les musulmans ont de le Messie, Ad-Dajjal. Dans le livre de Daniel, chapitre 11, passage 36, il est dit ويفعل الملك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة. على إله الآلهة. Donc il a dit وينجح بإتمام الغضب لأن المقتضي به يجري. Donc dans ce livre il est le Mashih que les Juifs attendent, il est décrit ainsi, comme étant un roi qui a une grande volonté et qui va s'élever au-dessus de tout le monde et qui va parler avec des choses extraordinaires et étonnantes et qui va même s'élever au-dessus de la divinité des divinités. Yani, la grande divinité, ce qui est visé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. il va même s'élever au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-iyadu billah. Et ainsi, il arrivera à l'aboutissement de la colère de la divinité, et son œil, regardez, dans le même passage, il décrive son œil. Ils ont dit, ووصف بأن عينه تالفة وأنه يغير الشرائع ويدعي الألوهية. Donc, dans d'autres passages, son œil est décrit comme étant, il a un œil, يعني il est borné, et qu'il va changer les législations d'Allah, et qu'il va prétendre être une divinité. Tout ça, ça correspond parfaitement à la description de le Messie Ad-Dajjal chez les musulmans. Chez les chrétiens, ils croient que Jésus reviendra. Ils l'appellent le Messie. Et ils appellent ça le deuxième retour, Al-Maji Uthani. Et ils disent qu'il va apparaître une deuxième fois après l'apparition du faux Messie. Ce qu'ils appellent, eux, l'antéchrist, le faux Messie. Ils disent, quand il sortira le faux Messie, reviendra une deuxième fois Al-Masih, le vrai Messie. Et ils décrivent ce faux Messie, ils disent, qui œuvre avec la force du diable, qui œuvre avec la force de Shaitan, et qui va essayer de juger le monde. Il prétend être une divinité. Et dans le message de Jean, chapitre 2, passage 18, il dit « Ô mes enfants, hiya sa'atul akhira, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu, eux, ils l'appellent l'antéchrist. L'anna, ça comporte la croyance de la crucification. » On n'appelle pas Jésus Christ. On l'appelle le Messie ou la Jésus ou la Isa, fils de Marie. Cette appellation, elle comporte leur croyance en la crucification. Pour ça, l'autre, il l'appelle l'antéchrist. Donc, il dit, « Ô mes enfants, c'est la dernière heure, comme vous avez entendu. Viendra le faux Messie. » Et il dit, et aujourd'hui, il y a beaucoup de faux messies qui sont apparus. D'où nous pouvons savoir que la fin des temps est proche. Et il a dit, en parlant du faux messie, il a dit, il est dans le monde actuellement. Il est dans notre monde actuellement. Et ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Un compagnon a vu le faux messie enchaîné sur une île après un naufrage de leur bateau. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et le Nabi, quand il a entendu ce récit de ce compagnon, Tamim al-Dari, radiallahu anhu, ça lui a fait énormément plaisir parce qu'il leur parlait avant de le Messie Dajjal. Lakin, comme vous savez, celui qui a vu n'est pas comme celui qui a entendu. Quand les compagnons ont entendu les mêmes choses que le Nabi sallam leur a dit, de la bouche de Tamim al-Dari, qui a vu avec ses propres yeux, ça augmente encore plus la foi. Comme vous savez, la foi, c'est des degrés. Et plus tu as d'arguments, plus ta foi augmente. Plus tu as d'arguments, plus ta foi augmente. C'est pour ça que les arguments importants dans la religion, en général, vous allez trouver qu'il y a énormément d'arguments sur ces points-là. Les fondements et les points fondamentaux et principaux de la foi et de la religion, vous n'allez pas trouver un dalil, deux dalils, trois. Vous allez trouver énormément de dalils. Et dans les livres des savants, ils vont vous citer dalil shar'i, de le Coran, de la sunna, de la raison, de la sainte nature, du consensus, de l'analogie, et ainsi de suite. Multiplier les arguments sur un même point augmente sa force et la conviction sur ce point-là. Et ça, c'est valable pour tous les points de la foi, qui font partie des fondements de la foi. C'est pour ça que vous remarquez que la plupart de ces points que nous voyons, à leur sujet, il y a des hadiths qui sont rapportés, qui atteignent le degré de tawatur. Ça veut dire que c'est rapporté d'un très grand nombre, de très grands nombres, jusqu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pas, en général, des hadiths de l'ahad. Malgré qu'un seul hadith est suffisant pour établir la preuve. Lakin, quand il y a plus de dalil, ça augmente encore plus, ça renforce encore plus cette vérité, et ça augmente encore plus la foi. Donc, chacun, et ça, c'est le point pourquoi j'ai voulu l'aborder, la croyance des juifs et des chrétiens par rapport à ce point, car ça vous aide un petit peu à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, Annie, sur Terre. Ça donne une petite indication sur la collaboration qu'il puisse y avoir entre juifs et chrétiens par rapport à ce point. Malgré que les juifs, comme vous savez, ils ne croient pas du tout en Issa. Et ce délivreur, c'est celui que les chrétiens considèrent comme le faux messie. Ce délivreur qu'ils attendent. Et dans les hadiths que nous avons, nous les musulmans, nous savons que 70 000 juifs parmi les juifs de Aswahan attendent la sortie de le Messie Dajjal, ils vont le suivre. Aswahan, c'est une ville en Iran. Vous savez, la plus grande communauté juive qui existe au Moyen-Orient, après l'État colonisé, la Palestine, c'est l'Iran. Ils ont énormément de privilèges, même peut-être plus qu'en Palestine même. Ça aussi, ça vous aide à comprendre certains films ou certains sketchs qui se déroulent là-bas, Nihado, c'est les ennemis, pour comprendre qui sont les vrais ennemis et les vrais alliés. طيب par rapport à ce point l'imam Ahmad dit wal imanu anna al masih ad dajjal kharij maktoub bayn aynayhi kafir, et d'avoir la foi que le masih ad dajjal sortira et qu'il est écrit entre ses deux yeux kafir. Dans d'autres hadith kafara, un kaf et un fa et un ra, qui pourra être lu par tout croyant sincère, même s'il est analphabète, même s'il est illettré, il ne sait ni lire ni écrire, Allah lui permettra de lire. Et les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet est de croire que ceci aura bien lieu. Le Nabi a dit dans un hadith authentique, il n'y a pas de prophète qui n'a pas mis en garde sa communauté contre le faux messie. Tous les prophètes ont mis en garde leur communauté contre le faux messie, car c'est une des plus grandes tentations que connaîtra l'humanité. Un homme qui parcourira toute la terre en 40 jours, il ne laissera pas un endroit, excepté les endroits qu'Allah lui a interdits, Mecca et Al-Madina. Mecca et Al-Madina. Il y a d'autres endroits qui sont rapportés dans certains textes, Bayt al-Maqdis. Bayt al-Maqdis. Et j'ai oublié de revenir vers les textes, lakin j'ai ça de mémoire comme ça. Annahu, il ne pourra pas aller sur le mont At-Tur non plus. Lakin, ça a besoin de vérification. Taïb. Donc, et cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donnera des pouvoirs exceptionnels. C'est une grande tentation. Il s'adressera au ciel en donnant l'ordre de faire descendre la pluie descend instantanément. Il s'adresse à la terre de faire pousser les plantes et la végétation, elle fait pousser instantanément les plantes et la végétation. Il passera sa main sur la brebis toute maigre, elle deviendra engraissée directement. Il ordonnera à la terre de faire sortir ses trésors. Yani, c'est une grande tentation pour les gens qui n'ont pas la foi ferme. Et bien évidemment, les gens qui ont la foi ferme, ils ne vont pas aller vers lui pour tester leur foi. comme on peut l'entendre de certaines personnes qui sont ignorantes de l'attitude de le musulman face aux tentations. Il y en a quand tu leur dis qu'il ne faut pas rester dans les pays de kufr à cause des tentations et tout ça, ils disent, au contraire, moi je reste pour tester ma foi. Le croyant, la règle de base chez les croyants, c'est qu'ils fuient les tentations. Non pas ils s'exposent aux tentations, ils fuient les tentations. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a dit aux compagnons si jamais le Messie déjà les sort à leur époque? Il leur a dit, s'il sort pendant que je suis vivant, je vais vous suffire son affaire. Il s'occupera de lui. Lakin, s'il sort après moi, il a dit, fuyez-le. Il n'a pas dit, allez le voir et vérifiez votre foi. Est-ce que... Fuyez-le. Lakin, si tu n'as pas le choix, alors à ce moment-là, il y a une autre situation. Mais la règle, c'est de fuir les tentations. De les fuir. Et de demander à Allah d'être préservé. Et de craindre de faiblir et de succomber à ces tentations. Hada huwa al-mu'min qui connaît la valeur de sa foi et la valeur de sa religion. C'est pour ça que vous trouvez les gens qui ont des fortunes, ils ne vont pas s'amuser à placer leur fortune n'importe où, là, avec n'importe qui. Ils prennent des précautions, des garanties, font des enquêtes. Ils mènent des missions, ils chargent des bureaux d'études pour voir est-ce que c'est vraiment rentable, ça vaut le coup. Ah, d'abord, il va confier sa fortune, ou là, une partie de sa fortune. Ah, là, pour quelque chose qui ne vaut même pas l'aile d'un moustique pour un croyant, qui connaît la valeur des choses telles qu'elles sont. Alors, que dire de la religion qui est la plus grande ni'ma qu'Allah accorde à un être humain? Pour ça, le mu'min, il ne joue pas avec sa religion. Il préserve sa religion. Il reste avec les gens de la vérité, avec l'ulama de sunna. Et il n'écoute pas les innovateurs, ceux qui vont lui mettre des ambiguïtés. Il reste sur les principes et les convictions et les certitudes qu'il connaît de sa religion. Il ne permet à personne de le troubler, ni de le perturber par rapport à ses bases qu'il a connues avec science de sa religion. Et c'est pour ça que vous entendez Anas Salaf, ils bouchaient leurs oreilles quand un innovateur commence à parler. Et en général, il parle avec des versets, des hadiths. Et il bouche ses oreilles. Là qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez, lisez, écoutez, prenez la vérité et laissez le faux. Comme il dit Cheikh Rabia, à la limite, si ça c'est dit par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ça peut être accepté dans un sens. Mais jamais Ibn Taymiyyah ne va dire ça. Et ici c'est dit par un homme qui a une grande clairvoyance, beaucoup de science, une grande capacité à dévoiler les ambiguïtés, à réfuter les faux arguments, si à la limite c'est dit par quelqu'un comme ça, ça peut se comprendre. Là, bien évidemment, là, plus ta science augmente, plus tu vas t'éloigner de ce genre de paroles et plus tu vas avoir peur pour ta religion. Et non pas l'inverse. Là, c'est qui va dire ça? C'est en général quelqu'un qui débute, qui commence. Et il dit, « Ma chi mouchkil, sma kulchi, khod l'haq, utrak l'batal. » Prends la vérité et laisse ce qui n'est pas vrai. Et qui dit que tu vas prendre le batel aussi avec? Taïb, Cheikh Rabia, dans son explication par rapport à ce passage, il a dit que les hadiths à ce sujet ont atteint le degré de tawatur, comme ce que je vous ai dit, au sujet de la sortie de Dajjal et de la descente de Isa alayhi salam. Et les hadiths sont très nombreux. Et parmi ces hadiths, ce que vous répétez dans votre salat, quand vous faites dua, avant salam, vous dites « Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab al-nar ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Vous savez, ce hadith, il a une petite histoire. C'est une juive qui a enseigné ça pour la première fois à notre mère Aïcha radiallahu anha. Elle lui a parlé du châtiment de la tombe et que des gens seront châtiés dans leur tombe. Et après, elle a interrogé le prophète et il a confirmé ce point. Il a ordonné aux gens de dire, de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces quatre points. Contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, et contre les tentations de la vie et de la mort, la vie, yani, pendant temps vivant, et de la mort, pendant que la mort arrive, pendant l'agonie, et contre le mal de la tentation du faux Messie. Et ensuite, Cheikh a dit que certaines personnes, malheureusement, n'affirment pas cette croyance au sujet de le Messie Dajjal. Ils disent, c'est pas une personne réelle, le Messie Dajjal. C'est pas une personne physique. Le Messie Dajjal, ils disent, c'est plus un courant matérialiste. Certains disent, c'est un courant matérialiste. Yani, on est en plein dedans d'abord. Le Messie Dajjal, il est déjà sorti, le courant matérialiste. D'autres, ils disent, le Messie Dajjal, tous à deux, ils s'accordent à dire que c'est pas une personne réelle. Ils disent le Messie Dajjal, c'est les médias. Les médias occidentaux, par exemple, qui propagent les mensonges et qui appellent à l'égarement, à l'athéisme, à la mécréance. D'autres, ils disent le Messie Dajjal, c'est le capitalisme. D'autres, ils disent c'est le communisme. D'autres ont dit il y a longtemps, c'est la télé. La Kindaba, la télé a été dépassée par Internet. Watch. Subhanallah, à l'époque où la télé est apparue, c'était une grande fitna pour les gens. C'était un danger, un fléau pour les enfants. Et ils rentrent chez toi et ils commencent à éduquer tes enfants comme ils veulent. À travers des films, des séries, des reportages, des documentaires. Lakin, regardez d'abord la télé. La télé, c'est peut-être un bien aujourd'hui par rapport à Internet. Il y a quand même un certain contrôle par rapport à la télé. Il y a des émissions choisies. Ils ne peuvent pas passer tout et n'importe quoi. Lakin, sur Internet aujourd'hui, l'enfant, il peut accéder à des réseaux pédophiles, et pas de la criminalité, yani tout et n'importe quoi. L'adoration de Shaitan, ça, ces choses-là, ils ne pouvaient pas passer à la télé. Wallah al-Musta'an. Et ça confirme ce que le Nabi a dit. La yati zamanun illa walladhi ba'dahu ashar. Il ne viendra pas une époque sans que celle qui la suit soit encore pire. Et les choses ne vont faire que s'empirer. Et l'empirement des choses, ce n'est pas au niveau du matériel, de l'argent. Au contraire, ça va se répandre. Comme on va voir, yani, comme Isa al-Islam, il va descendre sur terre. Yani, au contraire, l'argent et les biens. Yani, d'abord, si vous lisez un petit peu comment étaient les rois de l'époque, vous allez trouver que quelqu'un qui touche le RSA, peut-être il vit comme les rois de l'époque. Il peut s'acheter des gâteaux, de la viande, et ça, c'est le plus pauvre, il a ça. Alors que c'était des choses réservées au roi. Il peut avoir un enseignant pour ses enfants, ça c'était pour les rois. Il a un enseignant pour ses enfants. En tout cas, le bien, il se répand, et il va se répandre, les biens matériels se répandent, ils vont se répandre encore plus. Lakinski est voulu par le mal, dans ce hadith, comme l'a expliqué Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, c'est la disparition des hommes de science, l'éloignement de la science et l'abondance de l'jahl, de l'ignorance. Et tous ces courants au sujet de ce point, c'est des égarements qui s'opposent aux textes dans lesquels il est mentionné يعني vous savez qu'à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم الصحابه ont soupçonné un homme d'être le messie الدجال ابن صياد c'était un juif ils l'ont soupçonné d'être le messie الدجال ça veut dire الصحابه ils ont compris que c'est un homme il va commencer au début par prétendre être un homme vertueux ensuite il va prétendre avoir reçu la révélation et que c'est un prophète et ensuite il va prétendre être le Seigneur lui-même. Et c'est un homme qui est borné, comme le Nabi Al-Sallam a dit, « Inni unzirukum, wa sa'akoulu lakum shay'an, ma qalahu ahadun qabli, innahu a'warul ayni al-yumna. Innahu a'warul ayni al-yumna. » Donc le Nabi Al-Sallam a dit, je vais vous avertir et vous mettre en garde contre le faux Messie et je vais le décrire d'une manière que aucun prophète ne l'a décrit ainsi avant moi. Car le Nabi Al-Sallam l'a décrit d'une manière très détaillée au point où ce n'est pas possible de se tromper à son sujet. Lakin, ce qui va te préserver de ces tentations, ce n'est pas le fait de le reconnaître là. C'est la foi. Yani hadi la cause principale et c'est Allah qui préserve et c'est Allah qui protège le croyant de sa tentation. Et donc il a dit innahu a'waru al-'ayn al-yumna. Il est borné au niveau de l'œil droit. Au niveau de l'œil droit. Dans certains hadiths, son œil est comme un raisin pourri qui flotte. Et l'autre, il est normal. Et le Nabi a dit, « Wa inna rabbakum laysa bi'awar. » Et votre Seigneur n'est pas borné. Ça, c'est parmi les arguments de Al-Sunnah al-Jama'a, que Allah Azzawajal a deux yeux, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Allah n'est semblable en rien à ses créatures. Lakin, c'est un attribut d'essence réelle, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith également, il est mentionné que Dajjal sortira avec un paradis et un feu. Il aura avec lui une rivière de feu. Et une autre rivière, yani c'est son paradis. Dans ce que les gens voient. Yani dans ce que les gens voient. Et la réalité, c'est que cette rivière qui est son feu, c'est en réalité le vrai paradis. Yani le paradis. Et l'autre, la rivière qui est l'enfer, qui est le feu, c'est le paradis. Son paradis, c'est l'enfer, et son enfer, c'est le paradis. Et il invite les gens à rentrer dans son paradis. Ceux qui lui obéissent iront en enfer. Nasallallahu salamu alayhi. C'est pour ça que le Nabi Al-Sallam a ordonné aux croyants qui doit faire face à ça de rentrer plutôt dans ce qu'ils voient comme un feu. De rentrer dans ce qu'ils voient comme un feu. Et ça sera le paradis. Et dans un autre hadith que Cheikh Rabi a mentionné, le Nabi Al-Sallam a dit « La ana a'lamu bima ma'ad dajjali min » Il a dit, le Nabi Aslam a dit, La ana a'lamu min ad-dajjali bima, la ana a'lamu bima ma'ad-dajjali minhu. Le Nabi Aslam a dit, je connais mieux ce que le Dajjal a, plus que lui, il le connaît. Donc, Cheikh Rabi, rahimahullah, a déduit de cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, connaît mieux ces tentations avec lesquelles sera envoyé Dajjal, que Dajjal lui-même. Et que Dajjal pense que, yani, ce qu'il présente comme le feu, que c'est un vrai feu. Et que ce qu'il présente comme un paradis, c'est un vrai paradis pour lui. Alors que la réalité est que c'est l'inverse de cela. Et ça, ça indique la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en dernier point, après avoir cité tous ces éléments qui concernent cette grande fitna, une des plus grandes fitnes que connaîtra l'humanité, Cheikh Rabi' rahimahullah a rappelé un point très très important. C'est que le Nabi alayhi salam, quand il mettait en garde ses compagnons et sa communauté par la suite contre la tentation de le Messie ad-Dajjal, un jour, les compagnons lui ont dit « Ô messager d'Allah, t'as mis en garde, yani, t'as beaucoup mis en garde contre le Messie ad-Dajjal. » Il leur a dit « Ce que je crains pour vous, plus que Dajjal, il leur a dit « Ce que je crains pour vous, plus que Dajjal, autre fitna, que la fitna de Dajjal. « Ghayru Dajjali akhwafuni alaykum. » Pourquoi ? Parce que Dajjal, pour le croyant sincère et ferme dans sa foi, il verra marqué sur son front « kafir »,« kafara ». Il le reconnaîtra par la description que le Nabi Islam nous a enseignée, comme ce jeune homme, ce Médinois, ce jeune homme qui va sortir de Médine et qui va affronter Dajjal. Et Dajjal, pour impressionner ses suiveurs, il va leur dire « Je vais le tuer et le ressusciter. » Et ce qu'il va faire, dans ce qu'eux, ils vont voir. Il va le couper en deux, et après il lui dira « Lève-toi », il se lèvera vivant. Dans ce que les gens voient, qu'il l'a coupé en deux. Et il lui dira « Alors, tu crois en moi maintenant que je suis ton Seigneur ?» Il lui dira « Par Allah, ça n'a fait qu'augmenter ma foi » que t'es le faux messie. Car Nabi Aslam nous a dit qu'il va faire ça avec un homme, et ça sera le dernier homme avec lequel il va pouvoir faire, à qui il va pouvoir faire du mal. Après cet homme, il ne pourra plus jamais faire du mal à qui que ce soit, sauf le fait d'appeler les gens. Et ceux qui vont le suivre, ils vont le suivre. Ceux qui vont le suivre, c'est les hypocrites, les munafiqin, qui vont sortir de Médine. Là, comme vous savez, il ne pourra pas entrer à Médine. Lakin, il viendra aux extrémités de Médine et il va frapper la terre avec son pied, elle va trembler, elle va sortir ses hypocrites. Médine va sortir tous les hypocrites, ils vont tous sortir et le suivre. Et ceux qui ont des doutes, nasallallahu salam al-afiyah. C'est pour ça l'homme croyant, il va attacher chez lui son épouse et ses enfants pour qu'ils ne sortent pas et qu'ils ne suivent pas Dajjal. Tellement ça sera une grande fitna. Donc, il y a encore une fitna qui est plus grave et plus dangereuse pour les croyants, surtout pour les croyants, que la fitna de Dajjal, nous dit Cheikh Rabi. C'est laquelle ? C'est la fitna de ces égarés égareurs. La fitna des gens de l'innovation, de ces menteurs contre lesquels Nabi alayhi salam nous a mis en garde. Aussi, la fitna de l'ostentation. Le Nabi a dit à ses compagnons « Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar » Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Ce que je crains le plus pour vous, en s'adressant à ses compagnons, c'est l'associationnisme mineur. Ils ont dit « C'est quoi l'associationnisme mineur au messager d'Allah ?» Il a dit « L'ostentation ». Donc il l'a défini par une de ces catégories. Et il a dit dans un autre hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, « Inna akhwafa ma akhafu alaykum ba'di, kullu munafiqin alimul lisan. » Il a dit « Ce que je crains le plus pour vous après moi, c'est tout hypocrite qui a sa science uniquement dans sa langue. Qui a sa science uniquement dans la langue. Il y a un beau parleur. Qui sait bien parler et qui sait bien embellir le mal au point où les gens ils vont le suivre et croire qu'il les appelle à un bien. Mais en réalité, c'est un mal embelli. Nabi alayhi salam a dit « Alimul lisan » c'est-à-dire qu'il a de la science, mais juste dans ce qu'il dit. Sa science, c'est uniquement dans sa langue. Et non pas dans son cœur et dans sa pratique. Sa pratique, elle est très loin de la méthodologie du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais c'est un homme qui a fait de la science un moyen pour parvenir à ses intérêts mondains. Il se sert de la science juste pour avoir les biens mondains, pour avoir le statut, pour avoir l'argent, pour avoir les femmes. Il appelle les gens juste pour avoir leurs biens et leur argent. Alors que lui, il ne met rien en pratique, surtout quand il est tout seul, isolé. Devant les gens, il peut montrer la piété, wesh. Hada huwa la catégorie qui est visée dans ce hadith, nasallallahu alayhi wa sallam al-afir. Il met en garde les gens contre le mal, il fait pire encore quand il est tout seul. Il leur ordonne de faire le convenable, mais il ne le fait jamais lui. Donc c'est quelqu'un qui se sert de la science juste pour arriver à ses fins mondaines. Il montre aux gens la piété et la virtuosité, l'adoration. Et quand il est avec son Seigneur, comme a dit le Mounaoui, quand il est seul avec son Seigneur, il fait les pires des péchés. Il a dit, en réalité, c'est un loup parmi les loups, caché dans des vêtements d'homme. C'est contre cet homme que le messager nous a mis en garde. Contre le fait de succomber à ces tentations à cause de la douceur de ses paroles. Et comme quand vous entendez certains égarés aujourd'hui, et quand ils parlent avec un ton doux, et ils disent des choses qui peuvent paraître comme un bien. J'ai délaissé la salafia parce que c'était dur. Aujourd'hui, je suis dans le bien, je travaille mon cœur. La salafia, tu ne travailles pas ton cœur, tu travailles quoi? Tes cheveux? Ouais, salafia, il faut comprendre un point. Est-ce qu'il y a meilleure chose qui existe d'une manière absolue pour réformer ton cœur que le Coran? C'est qu'en me racontant les histoires, un tel il est tombé du train, ou l'autre il est monté dans l'avion, là, c'est ça qui va adoucir mon cœur. Ça va me faire pleurer 2 minutes et après je retourne dans quoi j'étais. Ou là tu me fais un speech devant une tombe et tu fais semblant de pleurer. Ou là, salaf, ils n'étaient pas naïfs comme ça. Là, malheureusement aujourd'hui, à cause du fait que la science a diminué et que le jahl s'est propagé, les gens, ils sont leurrés par ces belles paroles et par ces beaux parleurs. Je me suis éloigné de Salafia, donc mon cœur est... Nas'alullah salam al-afiyah. Si t'as rencontré dans ta vie, si toi t'étais hada celui qui parle, hada waqila huwa hada qui s'appelle Nadir Abu Anasul, si toi t'étais, tu fréquentais des salafines comme tu décris, alors ni toi ni eux, vous n'avez compris la salafie. Dur, ils n'ont que les mises en garde, ils n'ont que... Les salafis, la mise en garde, c'est un détail dans sa religion. C'est un élément parmi les éléments de sa religion. Il a des choses avec lesquelles il travaille son cœur, il apprend le Coran, il le mémorise, il fait de son mieux pour le mettre en pratique, il apprend la sunna de Nabi alayhi salam. Il est très attaché à être derrière Nabi alayhi salam dans son comportement, dans sa croyance, dans ses aqidah, dans ses adorations. Et de faire tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Il peut avoir des défauts. Lakin, il est sur un chemin de réforme jusqu'à rencontrer Allah. Il ne deviendra jamais parfait. Lakin, il est sur la voie de la réforme. Hada huwa salafi. Si toi, tu as rencontré des salafiyins qui n'ont rien compris de la salafia, il ne faut pas les prendre comme des références. Salafi, c'est Sheikh Rabia. Va assister à... Si jamais... Lakin, je ne pense pas qu'il a déjà assisté à un cours de Sheikh Rabia. Pendant le mois de Ramadan, quand on lui récite le Coran, il commence à expliquer les versets. Et tu vois les larmes de Cheikh, presque pas un verset qu'il commence sans couler des larmes et sans rappeler l'importance du Coran et du livre d'Allah. C'est la première source de guider et de lumière pour le mu'min. Et ensuite, c'est les paroles du prophète alayhi sallam authentiques. Et de les comprendre comme Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali les ont compris. Un masque, où il fait ses sketchs et ses pièces de théâtre, ça n'a jamais existé dans la sunna, et ça, c'est des méthodes innovées pour appeler les gens. C'est pour ça les gens qui suivent les gens, comme ça, ceux qui les suivent en général, ils ne vont pas évoluer dans leur religion. Ils vont stagner. Il y en a où il n'a que ça. Là, si tu es avec Al-Sunnah wal-Jama'a, alhamdoulilah, tu vas apprendre l'aqida, tu vas apprendre Tawhid, la science qui te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas apprendre la sunna du prophète alayhi salam, et tu vas faire tes adorations conformément aux enseignements de Nabi alayhi salam, et tu vas savoir que tu n'es pas à l'abri de l'égarement, et ce n'est pas parce que tu es salafi que tu es préservé. Ce qui est infaillible, c'est la méthodologie et la voie, et non pas ceux qui la suivent. Ceux qui la suivent, ils ne sont pas à l'abri. Lakin, ça c'est une voie infaillible, car c'est l'islam qu'Allah a révélé. Mais nous, on n'est pas infaillible. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَ. Le vivant, tout vivant, n'est pas à l'abri de la tentation. فنسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الثبات على الحق إلى الممات. Ensuite, il a cité la descente de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, Allah l'a élevé et il n'a pas été crucifié comme le croient les chrétiens. Comme Allah dit clairement dans le Coran, bar rafa'ahu Allah ilayhi. Isa alayhi salam, dit l'imam Ahmed, وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله ببابلود. Et que Isa alayhi salam va descendre vers la fin des temps. Ça, c'est aussi parmi les grands signes de la fin des temps. Les grands signes précurseurs de la fin des temps. Parce que comme vous savez, il y a des petits signes et des grands signes. Les grands signes, c'est à peu près une dizaine. Et tout ce qui précède, ce sont les petits signes. Les grands signes, quand ils arrivent, ils s'enchaînent comme un collier quand il est cassé et avec le kharazat.
Les perles, Oustad.
Et quand les perles ils commencent à tomber l'une après l'autre. Vous avez déjà vu un collier quand on casse ou là on déchire avec le collier, ils se suivent l'une après l'autre. Hadou ma les grands signes. Et parmi ces grands signes, il y a la sortie de le Messie Dajjal. Qui va sortir, et après descendra Isa alayhi salam entre deux anges. Il descendra du ciel dans lequel il est aujourd'hui, dans le deuxième ciel. Vous savez que le Nabi alayhi salam, lors du voyage nocturne et de l'ascension, il a rencontré quelques prophètes dans le ciel. Dans le premier ciel, il a rencontré Adam alayhi salam. Et dans le deuxième ciel, il a rencontré les cousins Isa alayhi salam et Yahya, fils de Zakaria, dans le deuxième ciel, qui sont Abna ou Khala, c'est-à-dire leurs mères sont des sœurs. La mère de Isa et la mère de Yahya sont des sœurs. Et dans le troisième ciel, il a rencontré Yusuf alayhi salam. Dans le quatrième ciel, il a rencontré Idris alayhi salam. Dans le cinquième, il a rencontré Harun ibn Imran, le frère de Moussa, alayhi salam. Et dans le sixième, il a rencontré Moussa. Et dans le septième, il a rencontré Ibrahim, alayhi salam. Et tous, ils ont réservé un accueil chaleureux à notre prophète, sallallahu alayhi salam. Et ils l'ont salué. Avec certaines recommandations, comme avec Ibrahim, alayhi salam. Donc, Isa, alayhi salam, descendra vers la fin des temps. Et c'est lui qui va tuer le faux Messie. Il le tuera à un endroit qui s'appelle Bab ou Lud. Lud, c'est un village en Palestine, proche de Beit al-Maqdis, proche de Al-Quds. Et il va le tuer
à quelques pas seulement de cette porte de ce village, en Palestine. Et déjà, le faux Messie, quand il verra Isa alayhi salam, il fuira, car il sait que c'est lui qui va le tuer. Donc il le fuira, il le rattrapera à cet endroit-là, et il le tuera avec, il le lancera avec une harba, une lance, et il le tuera ainsi. Harba, yani, hadik diyal la guerre, li katkoun anda wahad, la tête en fer et yani, la khor en bois. Et après cela, sortira, après que le faux Messie soit tué par Isa alayhi salam, après sortira Ya'juj wa Ma'juj, qui font partie également des grands signes. La sortie de Ya'juj wa Ma'juj, ils disent Yagog et Magog, qui sont aujourd'hui sur terre, à un endroit enfermé. Et ça, ça vous démontre que les satellites ne voient que ce que Allah leur permet de voir. Ils ne voient ni le faux Messie, ni Ya'juj ou Ma'juj. Pourtant, tous, ils sont sur terre. Et les kuffars ont des croyances. Un jour, ça m'a intrigué. Est-ce que les chrétiens ou ils croient, ils ont certaines croyances que nous, on connaît de la terre qu'une partie aujourd'hui. Et qu'il y a une partie qu'on ne connaît pas. Allahu alam. Mohim, ce qu'on sait, c'est ce qui est mentionné dans les textes. Car ça, c'est des choses qui font partie de l'invisible. Et nous ne savons à leur sujet que ce que le Nabi sallam nous a dit. Ils sont sur terre, tous, sans aucun doute. Lakin, ce qui est sûr, c'est qu'avec les satellites, ils ne les voient pas. On sait qu'ils ne les voient pas. Taïb. Et quand Isa alayhi salam va sortir, comme le Nabi alayhi salam a dit, elle a dit dans le hadith rapporté dans les deux authentiques, il a dit Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam. Il a dit par celui qui tient mon âme dans sa main. Il est bientôt, il descendra parmi vous bientôt le fils de Maryam, comme juge équitable. Et il cassera la croix, il tuera le porc et il annulera al-jizya. Al-jizya, il y a de la taxe que doivent payer les gens du livre contre leur protection sous la gouvernance des musulmans. Al-jizya. Et que l'argent va être tellement répandu jusqu'à ce que personne n'accepte que tu lui donnes de l'argent. Tu donnes aux gens de l'argent, il dit non, je ne veux pas. Ça, c'est un hadith qui est rapporté dans les deux authentiques. Donc, il cassera la croix car les gens du livre, une partie vont le suivre, vont suivre Isa, vont croire en lui. Et ils deviendront des musulmans. Et il n'acceptera plus al-jizya. Had. N'si ce qu'il va chez Goul al-jizya. Al-Mohim, had la taxe de laquelle doivent s'acquitter les gens du livre qui vivent sous la protection des musulmans dans leur pays. Aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'existe plus. Hna qui payons les taxes d'ab. Allah m'stan. Comme vous savez, dans l'islam, on n'impose pas à quelqu'un parmi les gens du livre d'accepter l'islam. Ce n'est pas une obligation pour lui de devenir musulman. On lui propose l'islam, on l'invite à accepter la religion de vérité. Là, Kinsi, il veut rester sur sa religion, il a ce droit dans le pays de l'islam. On ne le force pas. Les gens du livre et Al-Majous également pour le Hanabila. Et les avis des savants, il y a des divergences entre les savants. Il y en a qui disent, parmi le madhahib les plus larges, ils disent tous mes crayons. Lakin, ce qui est rapporté dans les textes, c'est les juifs, les chrétiens et le majous. Ça, c'est mentionné dans les textes. Les majus sont les adorateurs du feu. Taïb. Donc, il n'acceptera plus Al-Jizya. Pourquoi ? Ça va être abrogé. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut rester sur sa religion chrétien ou la juif, il doit acquitter la taxe. Lakin, quand Issa va descendre, il ne va plus l'accepter. Il faut qu'il accepte l'islam. Il a dit, l'imam Ahmad, فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ لُدْ. Il tuera, Issa alayhi salam, fils de Mariam, tuera le faux messie, يعني à la proche de la porte de Lud. Lud din al-Sharqi dans d'autres hadiths, Lud din al-Sharqi. يعني c'est cet endroit que je vous ai cité. Al-Masih, Isa, il est appelé le Masih de Siyaha. Il y a une divergence. Pourquoi il s'appelle Masih? Parce que son prénom c'est Isa, fils de Mariam, car il est né sans père d'une manière miraculeuse. Alayhi salam. C'est un prophète et messager d'Allah. Parmi les 5 meilleurs prophètes et messagers qu'Allah a envoyés aux gens de la terre. Lakin, il est né sans père. C'est pour ça qu'on dit Isa, fils de Mariam. Alayhi salam. Donc pourquoi il s'appelle le Messie? Il y en a qui ont dit le Messie, min as-siyaha. Siyaha, on peut traduire ça par le tourisme, yani le fait de parcourir la terre. Il y en a qui ont dit qu'il est appelé le Messie parce qu'il est mamsouh al-qadam. Parce que ses pieds sont comme effacés. Le mas, c'est l'effacement. Comme effacé, tellement il marche. Par contre, le Messie, déjà, pourquoi il s'appelle le Messie? Ils ont dit mamsouh al-ayn. Parce qu'il est borne de l'œil droit. Et après qu'il le tue, Cheikh Rabi a dit, sortira, Ya'juj wa Ma'juj. Isa alayhi salam va se retirer avec les croyants qui vont être avec lui à la montagne de Tour. Ils vont se retirer vers cette montagne dans le désert de Sinaï, Sahara Sina. Ils vont rester à cet endroit, ils vont bien évidemment, avant la descente de l'Messie Dajjal, il y a un point, je ne me rappelle pas, est-ce que l'imam Ahmed l'a mentionné ou pas, le Mahdi al-Muntadhar. Je ne pense pas qu'il l'a mentionné. Lakin, en tout cas, il y a le Mahdi al-Muntadhar. Le Mahdi qui sortira, qui apparaîtra cet homme, qui s'appelle Muhammad, fils de Abdullah. Il est de la même famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Qui apparaîtra vers la fin des temps et qui aura la science et qui va combattre et diriger le muslimin. Et quand Isa alayhi salam va descendre pour la première fois, il va trouver le muslimin en train d'accomplir une salat en groupe derrière le Mahdi. Et le Mahdi, en voyant Isa alayhi salam, il va vouloir reculer pour laisser Isa diriger la salat. C'est pour ça, Isa, c'est le meilleur homme de cette communauté, de notre communauté. Il y en a Isa, quand il descendra vers la fin des temps, il ne descendra pas comme prophète et messager, comme un membre de cette communauté. C'est pour ça, dans ce sens-là, on peut dire qu'il est le meilleur homme de cette communauté. Car il n'y a pas de doute qu'il a un statut supérieur à celui de Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhumah. Et donc, il va vouloir reculer pour laisser Isa alayhi salam. Mais Isa va refuser. Il va lui dire cette salat a été l'iqama a été faite pour que ce soit toi qui dirige la salat. Donc, continue à la diriger. Et il va diriger et Isa alayhi salam sera derrière lui dans le rang. Et donc, le muslimin, les croyants, quand sortira Ya'juj ou Ma'juj, personne ne pourra faire face à ces deux tribus. Yani, on se les imagine comme des sauvages, yani, qui tuent tout croyant et qui sont tellement nombreux qu'en passant par un très grand lac, comme comme le lac de Tabariya. Chacun y boit une gorgée d'eau, il ne reste plus d'eau dans ce lac, qui est un lac immense, qui existe aujourd'hui. Tellement ils seront nombreux. Et ils vont tuer tous les croyants. Toute personne qui dit « La ilaha illallah ». Ils ne laisseront personne. Sauf ceux qui seront en protection avec Isa alayhi salam autour du mont de Tour. Et Isa alayhi salam va continuer à invoquer Allah avec les croyants et l'implorer et faire dua pour qu'Allah leur donne une issue. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décidera d'envoyer certains de ses soldats contre ses Ya'juj et Ma'juj. Regardez, personne ne peut faire face à eux. Allah va envoyer pour les exterminer des vers, des petits vers. Ils seront tués tous. Et leurs cadavres resteront sur la surface de la terre et ça va devenir extrêmement puant. Les croyants ne pourront pas descendre encore, tellement la terre est puante. Allah, suite à cela, enverra des oiseaux qui ont des coups comme les chameaux, qui vont prendre leurs cadavres et les déplacer à un endroit. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre une très très forte pluie qui va nettoyer la terre et purifier la terre. Et la terre, elle deviendra tellement propre comme un miroir. C'est comme ça que ça a été décrit dans le hadith. Tellement elle deviendra propre. Et après, yani, ça sera une des meilleures époques au point que le Nabi Islam a souhaité être vivant à cette époque-là. Une époque de l'baraka et de l'khayr, au point où une pomme ou un fruit suffira à beaucoup de gens. Et ça va rester ainsi jusqu'à la mort de Isa al-Islam et la mort de l'Mahdi. Et les gens, petit à petit, vont s'éloigner encore de leur religion. Jusqu'à ce qu'il ne reste sur terre que Loka, fils de Loka, que les pires des gens, sur lesquels arrivera la fin des temps. Voilà, par rapport à ces points, parmi les grands signes également, il y a le lever du soleil à l'ouest. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça va s'inverser. Donc tout ça, ça fait partie des grands signes qui ont été mentionnés ici. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.